Ma préférence, Irène Finkel.
Et Jean-Luc Palévoni.
Bonjour.
Bonjour.
Ma préférence, le magazine culturel d'Esprit Occitanie.
Bienvenue sur Esprit Occitanie. Comme toujours dans ma préférence, on va parler théâtre, littérature, cinéma et mon endroit coup de cœur du moment pour bien manger. Voilà, vous connaissez le menu, c'est ma préférence et c'est parti. Et on commence tout de suite avec le théâtre et avec notre chère Chloé Cardino. Bonjour Chloé.
Bonjour Irène, bonjour. Bonjour à bonjour tous. Que... Alors, qu'est-ce qu'il y a cette semaine ? Alors déjà, il y a l'ouverture d'un lieu, d'un nouveau lieu d'humour sur Toulouse qui s'appelle le Studio 55. Est-ce que vous en avez entendu parler ?
Ah oui, on attend avec grand...
Avec impatience.
Oui, grande impatience de pouvoir s'y rendre, effectivement, oui.
Alors, on veut l'adresse !
Oui, alors, c'est Frédéric Menuet, qui est un comédien qui travaillait beaucoup au 3T, qui a un peu fait ses marques au 3T, il avait fait du théâtre ailleurs avant aussi, qui va être chargé de la programmation artistique. Et avec sa compagne Mélissa Billard, donc, ils font des vidéos sur Internet aussi, si vous les suivez peut-être déjà, ça s'appelle Les Toulousains, souvent. Et ils ont fait pas mal de vidéos pendant le confinement, des parodies, des petites vidéos courtes. Et donc, ils auront ce lieu qui est l'ancien... Enfin, il y a le Canaille Club l'été, là-bas. Donc, c'est au même endroit. C'est à Montaudran, dans l'une des halles de Cobalt, 55 avenue Louis Breguet.
À Toulouse.
À Toulouse, exactement. En Montaudran, c'est vraiment juste à côté, quoi. Enfin, c'est collé, je crois. Hein. Je n'ai jamais trop compris Montaudran si c'était.
C'est un quartier toulousain, oui.
Voilà, c'est un quartier. Pourtant, je suis toulousaine, j'ai honte. Et donc, il va y avoir un restaurant. On peut manger des tapas avant, après le spectacle. Ça va être un lieu super convivial. Enfin, c'est déjà un lieu. Il y a déjà des choses qui s'y passent. Mais là, vraiment, il va y avoir des spectacles à foison. Et ça commence d'ailleurs dès cette semaine avec Un peu plus près des étoiles. C'est une pièce à deux personnages qui a été écrite par Vincent Piguet et adaptée par Fred Menuet, donc celui qui va gérer tout ça. Il joue avec Pat Borg, ses deux acolytes. Pat Borg est toujours dans ses vidéos également. Et c'est un chanteur aussi, donc il y a de la musique. Et alors l'histoire, c'est Max qui a gagné un voyage pour l'espace. Il va passer 24 heures aux côtés de Thomas Pesquet. Max n'a qu'une idée en tête, que son père, avec lequel il est fâché depuis 20 ans, soit devant la télé. Pour cela, il peut compter sur Ivan, ou Yvou, je crois, mais ça doit être un diminutif de Ivan, son pote un peu lunaire pour qui Mars est surtout une barre chocolatée. Donc il y a des mensonges, des quiproquos et des chansons, puisqu'il est chanteur. Et il va y avoir également, dans ce même lieu, le seul en scène de Mélissa Billard, donc la femme de Fred Menuet, qui a un seul en scène qui s'appelle... je l'ai noté, où est-ce qu'il est ? Au les cœurs, voilà, au les cœurs, c'est à partir du 20 novembre, ça. Le prix de ces spectacles, c'est entre 20 et 25 euros. C'est des spectacles d'humour uniquement, surtout, donc ça dure environ 1h30, grand maximum. Et alors, au les cœurs, le seul en scène de Mélissa Billard, c'est l'itinéraire d'une petite fille à qui l'on a prédit un destin extraordinaire et qui va grandir avec cette conviction. À la conquête de soi, par le rire et en s'affranchissant des codes, elle crée de l'extra dans l'ordinaire. Donc ça a l'air vraiment chouette. J'ai pas encore eu le temps de le voir parce qu'il passait déjà au 3T, ce spectacle. Et donc, ils ont rapatrié parce qu'ils ont leur spectacle aussi qu'ils ont écrit. Donc, c'est pas le cas de Un peu plus près des étoiles, mais ils ont Toulousain 1, 2, deux spectacles. Ils ont Amandonné, qui est un spectacle de Pat Borg. Et après, il va y avoir aussi Romance givrée. Alors ça, c'est avec ma compagnie d'impro qu'on va aller faire un tour dans ce lieu. On va découvrir ce lieu-là. C'est un film de Noël improvisé, une romance pour Noël. Donc ça, voilà, ce lieu à découvrir, le Studio 55.
Moi, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Là, vous avez tout,
reparler.
Voilà, ça commence
nous
maintenant.
Nous en reparlerons avec
Chloé. Voilà,
oui,
exactement.
Il s'en parle de plus en plus, hein, du bouche à oreille, la communication.
C'est ça, parce qu'en fait, ça ouvre ce mercredi. Donc ça, vraiment, là, c'est la première semaine qui commence. Et puis, il va y avoir plein de programmations tout au long de l'année à venir. Ça va être un lieu très, très sympa, je le sens.
On peut que leur souhaiter d'avoir une bonne chance et surtout plein de réussite. réussite.
Et puis leur dire que de toute façon, on ira les voir.
Exactement, parce que c'est un nouveau départ pour eux qui viennent des 3T. Et donc ils ont,
non, c'est super.
Ils changent un peu de cap, même s'ils restent en bon terme avec les 3T. Donc c'est très, très chouette et une belle aventure pour eux.
Et c'est toujours bien d'avoir des salles de spectacle supplémentaires dans une ville. Donc ça, c'est très, très sympa.
Mais Toulouse foisonne.
Ah oui, heureusement.
À nouveau,
c'est
on va dire.
C'est pour ça qu'on l'aime.
Il y a eu un peu un creux de la vague et... On a l'impression que les choses repartent sur de bonnes bases. Et...
Ouais, j'espère, on va croiser. En plus, là, c'est vraiment un lieu où on peut venir manger. Donc, ça fait restaurant, on fait tout, on passe la soirée là-bas. On a un parking pour se garer.
Je crois que ça, c'est effectivement un concept
qui marche bien. Oui. Parce que les gens, souvent, on se demande, même quand on a une séance de cinéma, on se dit, bon, on y va avant, après manger, on hésite un peu. Ben là, on n'hésite plus, on y va. Quoi.
On sait qu'on passe la soirée là-bas et on essaye le
un
package.
Un petit cocon, voilà, exactement. Et puis, alors, il y a aussi, je voulais vous parler du seul en scène de Guillaume Douatte, qui a vraiment un nom de proctologue, comme il dit. C'est son premier seul en scène, il a travaillé pendant pas mal d'années dessus, et il le sort enfin, alors moi je l'ai déjà vu, et il joue encore donc ce samedi, là, ce week-end, au 57. C'est vraiment au bord du canal, après la gare routière. C'est un petit théâtre très, très sympathique aussi. Et alors lui, son pitch, c'est « Depuis toujours, Guillaume a un problème avec son nom de proctologue. Malgré cela, il a évolué comme tout le monde avec les règles de la société. Mais à 40 ans, il se pose des questions. Quel genre de questions ? Comment déguster un bon vin sans des mocassins ni un chèche autour du cou ? Est-il encore possible d'exister au XXIe siècle sans être influenceur ? Après 10 ans de vie conjugale, peut-on encore flatter sa femme sans hypocrisie ? Peut-on élever correctement des enfants quand on ronge encore ses ongles de pied ? Et alors Guillaume, ça me tenait à cœur de parler de lui parce que c'est un ami en plus. On fait du théâtre ensemble et c'est vraiment une personne atypique, comme on en rencontre peu. Il n'y a qu'à voir, quand on distribuait les flyers des fois au marché de Saint-Aubin, moi j'adorais être avec lui parce qu'il les distribue d'une manière mais totalement folle. Il aborde les gens... de manière drôle, et les gens, ils prennent toujours le flyer. Et moi, j'étais là avec mes flyers à galérer. Et lui, les gens rient. Et après, ben, ils reviennent le voir. Donc, c'est vraiment un spectacle à découvrir. Il est joyeux. Il a un peu un humour caustique parfois. Et puis, il dégage vraiment de la bonhomie, de la gentillesse. Hein, c'est une super personne et très, très, très drôle.
Tu peux nous rappeler son nom ?
Guillaume Douatte, ça ne s'oublie pas trop. Et donc le spectacle, c'est Guillaume Douatte à ses règles.
Et alors c'est au 57. Hein.
Oui, au 57. Et c'est mis en scène par Franck Andrew.
Elle nous l'a fait dans l'ordre. Elle nous a d'abord parlé du 55 et après du 57.
Oui, voilà, Studio 55 pour Mélissa et Fred. Et le 57 pour Guillaume Douatte. Ça, c'est son seul en scène. Et puis après, samedi aussi, le même soir. Donc ceux qui préfèrent le classique... pourront aller voir Don Juan au Grenier Théâtre.
Très bien.
Donc de Molière. Hein. La compagnie A, c'est une compagnie qui est aussi vraiment. Ils font des trucs, des pièces vraiment super élaborées. C'est Pierrot Corpel qui met en scène. Ils ont revisité tout ça avec de l'électro-rock. C'est une version dark sur la part sombre de chacun, sur les failles et les démons qui rongent notre intérieur. Avec un univers donc contemporain, une version électro-rock, du rythme, des combats, de la danse. La musique en live, et ça c'est au Grenier Théâtre, donc ce samedi à 20h30, il y a Magali Lopez dedans, Mathilde Ramad, Sylvain Borins, qui est aussi un ami qui est... Moi je suis fan depuis la première heure de ce comédien, Ibrahim Hadj Taeb, si j'espère que j'écorche pas son nom, et Fabrice Chikaoui. Donc voilà, il y avait une phrase qui disait « La seule soumission qu'il accepte, c'est d'être soumis à ses pulsions ». Don Juan. Voilà, bon, c'est bien de redécouvrir ces classiques de temps en temps. Et voilà, c'est ce dont je voulais vous parler. Comme ça, vous avez le choix.
Merci, merci beaucoup, Chloé.
Merci beaucoup, Chloé.
Et alors, la rubrique théâtre ne s'arrête pas là, parce que je crois que Tiffaine voulait également nous parler d'une pièce.
Alors, moi, j'ai deux pièces à vous parler. La première, c'est « Le temps que le cœur cesse », qui a été créée et mise en scène par Lise Avignon. C'est une, comme elle le dit elle-même, c'est une très, très personnelle et très libre adaptation de « Crime et châtiment » de Dostoïevski. Donc, la dernière est jouée ce samedi, 13 novembre. Pareil, c'est à voir pour ceux qu'on vit d'un nouveau regard sur Dostoïevski. Et la deuxième pièce, c'est Bipolaire de la compagnie Le Tourbillon. Et alors, il faut savoir que quand il s'agit de santé mentale dans la culture et dans la fiction, je suis personnellement très, très frileuse. Parce que très souvent, c'est split ou c'est vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est oh là là, ils sont dangereux, faut les enfermer. Alors que c'est pas du tout ça. Et dans la réalité, bah, ça crée des clichés qui font souffrir des personnes, des vraies personnes. Et là, bah, c'est pas le cas. Là, c'est une personne qui a été diagnostiquée bipolaire et qui nous parle de son parcours. C'est avec de l'humour, de la bienveillance, pas de clichés. J'ai été la voir l'année dernière. Ça repasse cette année. C'est au Théâtre du Chien Blanc à Toulouse. Le 2, 3 et 4 décembre. Voilà, c'est à voir. Foncez sans hésiter.
Merci, Tiffaine, de nous éclairer sur ce type d'événement.
Merci, Tiffaine.
Alors, on va déjà passer à notre première pause musicale. Et c'est... Ben... pour la première, c'est moi qui ai choisi une chanson. Alors, j'ai eu envie d'écouter Mambo Number 5.
Oh, j'adore.
De Lou Béga. C'est une chanson que j'adore parce que elle est.
Ça met le peps.
Ça met le peps. Ouais. Dès qu'on a un peu froid, on la met et d'un seul coup, ça y est, on a chaud. Alors, c'est en décembre 49 qu'est sorti un 78 tours comportant Kerico El Mambo sur la face A, et sur la deuxième face, il y avait Mambo Number 5. C'était un musicien cubain du nom de Prado. Et c'est Lou Béga qui en a fait une reprise en 1999. Alors, Lou Béga a ajouté des paroles à la chanson qui a été un énorme succès aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie. Lorsqu'elle a atteint le numéro 1 des hit parades en 1999, elle est restée 20 semaines consécutives en tête des ventes des singles en France, ce qui est un record absolu depuis la création du classement en 1984. Et ça, je ne sais pas si tout le monde le savait.
Non.
Effectivement, c'est Lou Béga avec cette chanson Mambo Number 5 que j'adore, et on va pouvoir se mettre à danser parce que ça donne le peps.
Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. I do all to 40.
number 5.
Bien, ça fait du bien de danser.
Dire aux auditeurs d'Esprit Occitanique, un peu de Larsen fait du bien. Dire que les filles étaient déchaînées, que ce soit Irène, que ce soit Tiffaine, ce morceau les a mis en transe, c'était beau à voir, n'est-ce pas Chloé?
Ah oui, j'ai adoré.
Alors tout de suite, on passe à la deuxième rubrique, c'est le cinéma. Le cinéma, mais je vais vous parler de... deux films, un qui est actuellement à l'affiche, où est-ce que j'ai justement mes petites fiches en parlant de cinéma à l'affiche? Oui, voilà, le premier film dont je veux vous parler est sorti le 6 novembre, donc on est le 10, vous pouvez le voir actuellement à l'American Cosmo. C'est le film, excusez-moi, de Goéland et Pingouin. Alors Goéland et Pingouin, c'est l'histoire d'un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants et qui en a eu des centaines. C'est l'histoire d'Yvonne et de Roger Agnoer, que tout le monde appelait Goéland et Pingouin. C'est l'histoire d'intellectuels, anarchistes, pacifistes, syndicalistes, féministes. C'est l'histoire d'un couple de résistants que certains ont voulu croire collabos. C'est l'histoire de la maison d'enfants de Sèvres, une expérience unique de liberté, de pédagogie et d'ouverture au monde. Le réalisateur dit « Et puis, c'est un peu mon histoire, puisque ma mère, sauvée par ce couple, a passé dans cette maison toute son enfance. » Le film documentaire de Michel Leclerc, « Pingouin et Goéland ». Alors, c'est vraiment un documentaire qui est bien construit, qui est complètement abouti, extrêmement intéressant et enrichissant. Alors, il n'est absolument pas larmoyant, bien au contraire, on rit, on est gai, passionné, vivant. Et puis, il y a Léa, le personnage mémoire, qui est vraiment un personnage plus qu'attachant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Léa Gnoer, donc Pingouin et Goéland, ce couple méconnu des plus jeunes, qui a été mis en lumière dans ce film par Michel Leclerc, elle, Yvonne, qui était née en 1898 et décédée en 1985, a été élevée au grade de chevalier de la Légion d'honneur et a reçu la médaille des Justes de l'État d'Israël. C'est un film que je vous conseille vivement parce que c'est un très très beau documentaire et comme je viens de le dire, c'est très enrichissant. Voilà. Après, nous avons vu hier avec Tiffaine en projection presse, alors je vous en parle dès maintenant parce que c'est tout frais dans ma tête, mais c'est un film documentaire qui ne sortira que début, oui, le 5 janvier 2022, c'est Rosie, Rosie de Marine Barnerias. Alors Marine, elle a 21 ans en avril 2015, lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte de sclérose en plaques, qu'on appelle SEP. Le besoin de vivre, de se découvrir et d'accepter se fait à travers un voyage de 9 mois en solitaire dans 3 pays différents, la Nouvelle-Zélande, la Birmanie et la Mongolie. Au-delà de son enthousiasme communicatif, de sa soif de vivre, elle nous offre des paysages merveilleux de découverte. Un film qui interroge sur l'urgence de faire, de vivre, sur l'acceptation de l'irrémédiable, sur l'amour, sur la famille. C'est un très beau documentaire d'1h39. Il est équilibré, vivant, avec de très belles images sur une musique de M. Ouais, très bien. On ne s'ennuie jamais, bien au contraire, la couleur est vraiment belle. Marine est émouvante en nous offrant ici sa propre découverte intérieure. Alors donc, je vous le dis, c'est le 5 janvier, toujours au cinéma à l'American Cosmo. On aura l'occasion d'en reparler d'ici janvier parce que je tiens vraiment à ce que le plus grand nombre d'entre vous aille voir ce film. Tiffaine, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot.
Moi, j'aimerais juste dire qu'en tant que jeune fille de 22 ans, ça m'a beaucoup parlé. Même surtout le fait de s'accepter soi, de chercher qui on est. Aussi, je pense que ce sont des thèmes qui sont très universels, qui peuvent parler à tout le monde. Moi, j'avais envie de mettre un petit accent là-dessus.
Alors justement, on va écouter l'interview de la réalisatrice Marine Barnerias. Irène Finkel et Tiffaine Lemaine pour l'émission Ma Préférence, Radio Esprit Occitanie. Nous sommes en compagnie de Marine Barnerias, je l'ai bien prononcé.
Barnerias, mais Barnerias. C'est chiant, personne n'y arrive.
Pour son film Rosie, à voir au cinéma à l'American Cosmo à partir du 5 janvier 2022.
Bonjour Marine, tout d'abord merci pour votre film qui nous a beaucoup plu à Tiphaine et à moi. Votre histoire, celle d'une jeune femme qui en 2015, à l'âge de 21 ans, apprend qu'elle a une sclérose en plaques, alors communément appelée CEP, le besoin de vivre, de se découvrir et d'accepter, se fait à travers un voyage de 9 mois en solitaire dans 3 pays différents, la Nouvelle-Zélande, la Birmanie et la Mongolie. Au-delà de votre enthousiasme communicatif, de votre soif de vivre, vous nous offrez des paysages merveilleux de découverte, un film qui interroge sur l'urgence de faire, de vivre, sur l'acceptation de l'irrémédiable, sur l'amour, sur la famille. C'est un très beau documentaire d'1h39, équilibré, vivant, avec de belles images sur une musique de M. On ne s'ennuie jamais, bien au contraire, la couleur est belle. Marine, vous êtes émouvante en nous offrant ici votre propre découverte intérieure. Comment allez-vous, Marine, aujourd'hui?
la question qui tue après la description de malade, c'est « tu peux que aller bien quand on entend ça ». Tu peux pas dire « ah non, ça va pas du tout, j'ai perdu mes papiers d'identité ». Non. Moi déjà, merci, bonsoir, Irène et Tiphaine.
Bonsoir.
Je suis ravie d'être avec vous. Moi, je vais très bien. C'est toujours intéressant d'avoir la vision de quelqu'un d'autrui qu'on connaît pas, qui voit... un film sur lequel je travaille depuis maintenant 3 ans, qui a été tout simplement une aventure de vie déjà de le réaliser. Ça a été un deuxième voyage, la réalisation de ce documentaire. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je le revisionne, je me dis toujours, mais ah, c'est intéressant de voir cette fille que je vois avec vraiment beaucoup de distance aujourd'hui, beaucoup plus de bienveillance qu'à l'époque. Et je me dis, ah, c'est intéressant de voir le cheminement de cette nana-là et de me dire, ah, c'est intéressant de voir que ce chemin, il continue. Et que ce voyage continue et que jamais rien n'est acquis et que tout est éphémère dans la vie. C'est-à-dire les découvertes qu'on peut faire, les bonheurs qu'on peut avoir, les tristesses qu'on peut avoir, les rencontres. Et en fait, c'est intéressant de se dire, OK, quand tu pars du principe que rien ne t'appartient, et ben en fait, tu as l'impression de continuer ton voyage, que ton voyage, en fait, il n'est jamais terminé. Et donc là, moi, je suis à Toulouse ce soir pour faire ma première avant-première toulousaine. Et je suis excitée d'aller rencontrer des Toulousains et de me dire, ce qui me plaît le plus dans l'aventure de ce film, c'est avant tout, je pense que là, je suis en train de vivre une aventure aussi, et c'est exceptionnel, c'est de prendre du temps d'aller à la rencontre des gens. Et ce film, moi, la seule envie, c'est de libérer la parole, de pouvoir libérer le débat et de pouvoir écouter les ressentis d'autrui et de me dire, OK, ça leur a procuré ça et comment on peut aller de l'avant ensemble. Et donc, c'est j'espère, ce qui va se passer ce soir.
Alors, c'est intéressant de le voir avec Tiphaine qui a 22 ans. Moi, j'en ai 22, mais très hors taxe. C'était intéressant d'avoir deux points de vue différents. J'ai presque envie de dire celui d'une jeune fille de votre âge et celui d'une maman. Je pense que votre maman, elle doit avoir mon âge, certainement, à peu près. Et Tiphaine va nous dire tout de suite ce qu'elle a ressenti sur le film. Et moi, je tenais à vous dire que ce que j'ai ressenti, c'est de me dire cette découverte, cette pathologie vous a fait mûrir d'une façon extrêmement rapide. Alors, ce qui vous a fait mourir aussi, c'est le voyage. C'est ce voyage, cette découverte qui a été extrêmement enrichissante. Et à la fin de ce film, je me suis dit, cette femme, cette très jeune femme, elle a fait son psychologiquement, elle a mûri d'une façon extrêmement rapide. Elle a vécu tellement de choses en condensé qu'elle est encore toute jeune femme, toute belle, toute pétillante et très enthousiaste. Mais vous l'êtes encore aujourd'hui et c'est du bonheur que de parler avec vous. Mais on sent une maturité extrême.
Alors oui, alors après, je pense tout de suite, en entendant ça, cette notion de maturité, je pense à une phrase d'un navigateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean Le Cam, qui dit souvent, pour connaître l'amour, il faut connaître la haine. C'était ce qu'il a dit en terminant son Vendée Globe. Moi, ça a été une toute petite aventure que j'ai vécue. Et je pense pas aujourd'hui être plus mature qu'une autre personne. Je pense juste avoir peut-être eu un accélérateur sur le fait de me dire comment apprendre à s'aimer. Tout simplement dans un monde où on est constamment déraciné de qui l'on est, on a toujours le regard, il est toujours à l'extérieur, il n'est jamais à l'intérieur. moi, cette maturité, je pense que j'ai eu peut-être un accès, enfin voilà, quelque chose qui m'a propulsée en me disant, mais maintenant, il va falloir que tu te regardes et que t'arrêtes d'attendre que les autres te disent où aller, mais que toi, tu te regardes de l'intérieur. Et je pense que cette maturité-là, on l'a tous en nous. On l'a tous. Sauf qu'elle arrive à des moments spécifiques de notre vie. Parfois, on n'a pas envie de l'écouter. On a envie de rester enfant. Ou parfois, on doit vite grandir indépendamment de notre volonté. Parfois, quand on est maman, il y a aussi il y a quelque chose qui s'accélère à ce moment-là. Moi, c'est vrai que cette pathologie, cette maladie qui s'est transformée rapidement en Rosie, m'a tout simplement fait peut-être avancer un petit peu plus rapidement sur certaines choses. Mais on voit tout, il n'y a jamais l'envers du décor. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'on voit toujours ce qu'on a envie de voir. Quand on regarde un acteur de cinéma, on se dit toujours « Ah punaise, lui il est comme ci, lui il est comme ça ». Quand on voit une nana qui a une maladie qui part à l'autre bout du monde, on se dit « Oh là là, cette nana, elle a cohabité comme ci, elle est géniale ». Mais en fait, il y a toujours, c'est jamais parfait. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire « Ok, cette fille, elle a réussi à cohabiter avec quelque chose d'extrêmement laid, qui l'a paralysée à la fois psychologiquement, intérieurement et physiquement ». Mais il y a l'envers du décor derrière tout ça. Il y a plein de choses que tu ne montres pas. Et moi, ce que j'aime, c'est de commencer à aimer ses propres vulnérabilités. Et donc, même si de l'extérieur, on peut se dire « Ah, punaise, cette nana, elle a une maturité sur ceci. » Il y a plein de choses que je ne montre pas. Et moi, c'est ça que j'adore. C'est d'apprécier l'envers du décor que tu ne montres pas. Et c'est tout l'enjeu de revenir d'un voyage, revenir d'une aventure, revenir de quelque chose qui t'a transformé et de se dire, ok, tu vas communiquer sur tout ça, mais comment tu vas prendre les graines sur tout ce que tu ne montres pas et tu vas réussir à les planter avec les gens qui ne sont jamais partis, qui sont restés ici et qui te montrent au quotidien, ah punaise, t'es génial, t'es ceci, t'es cela, mais c'est pas vrai. Il y a plein de choses qu'ils ne voient pas et c'est ça que je trouve intéressant.
On découvre dans le film, on ressent que la bienveillance des autres est très importante, elle est capitale pour vous. On sent aussi que vous êtes exigeante avec les autres parce que vous l'êtes avec vous-même. C'est toujours comme ça, quand on est exigeant avec les autres, c'est qu'on est au départ avec soi-même. La bienveillance, je veux qu'on s'arrête sur ce mot. Est-ce que cette aventure vous a rendu bienveillante avec vous-même ?
Je pense que c'est impossible d'être bienveillante avec soi-même si avant tout, en fait, je me rends compte vraiment qu'avant cette pathologie-là, j'étais beaucoup dans le jugement. Je pouvais beaucoup avoir des idées préconçues, des gens qui m'entouraient. J'avais des belles phrases sur « il faut faire ceci, il faut faire cela ».
Ce qui est normal à 20 ans.
J'étais un petit peu dans une utopie de ce que je voulais réaliser dans ma vie. Et j'étais peut-être aussi beaucoup sur du jugement d'autrui, sur « punaise, il fait pas comme ci, il fait pas comme ça ». Et je me suis rendu compte que si la bienveillance, je n'arrivais pas à l'avoir avec autrui, c'était impossible que je sois bienveillante vis-à-vis de moi-même. Et en fait, quand on est vulnérable, le premier pilier qui arrive, c'est la haine. Quand on est face à notre vulnérabilité, il n'y a jamais de bienveillance quand on se sent fragile. Quand on se sent fragile, on a souvent honte, on a souvent peur, on s'éloigne des gens qu'on aime, on se sent tout de suite jugé, donc c'est extrêmement facile de juger les autres. On se sent tout de suite mis à l'écart, donc c'est extrêmement facile d'avoir un jugement rapide. Et donc là, à ce moment-là, le plus important, c'est de se dire « Ok, je vais avoir besoin d'être bienveillante avec moi-même pour que les autres le soient. » Tu ne peux jamais demander aux gens d'être bienveillants si toi-même, tu ne l'es pas d'abord. Et c'est ça qui était assez intéressant, c'est que je me suis rendu compte que je me suis dit « Ok, je m'affranchis du regard d'autrui, je vais essayer d'être bienveillante avec moi-même et de me créer une carapace autour de ça, de bienveillance pour pouvoir avancer. » Et en fait, c'est hallucinant comment, quand tu commences à être un tout petit peu bienveillant avec toi-même, avec tes choix, qui paraissent complètement dingues, tout arrive. Et c'est là où tu déclenches la bienveillance d'autrui. C'est jamais, punaise, soyez bienveillants, les gars, avec moi. C'est de la bienveillance amicale, familiale, voilà, que tu peux avoir. Mais c'est pas de la bienveillance qui dépasse les frontières, qui dépasse les rencontres. C'est de la bienveillance familiale, tu vois, que t'auras tout le temps. Mais quand tu commences à être bienveillant avec toi-même, à te dire, ok, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en cette petite voix qui me dit d'aller à gauche ou d'aller à droite. Et c'est hallucinant après ce qui en découle. En termes de la vie, elle nous met des gens sur notre chemin, mais qui est exceptionnel, c'est complètement dingue. Et en fait, tu attires ce que tu estimes de toi. Quand tu estimes des choses, tu te répètes que tu n'es pas capable, que tu peux pas, tu vas t'entourer de gens et tu vas t'étonner à te dire « Ah, mais pourquoi ces personnes arrivent sur mon chemin ?» Je pèse mes mots en disant que c'est jamais 100% de ta faute, mais je suis convaincue que tout ce que tu crées est le fruit de ce que tu crois de toi.
J'en suis convaincue.
Et donc, cette bienveillance, elle est avant tout par rapport à ce que tu estimes de toi-même.
Une dernière question, parce qu'après, je vais passer la parole à Tiffaine, sinon elle va me taper à la sortie. qu'est-ce qu'évoque pour vous, Marine, le mot rage ?
Je pense que la rage, avant qu'elle soit envers les autres, elle est avant tout envers soi-même. Quand on a beaucoup de haine en nous, c'est que je pense qu'on a beaucoup peur des autres et qu'on a beaucoup de haine à l'intérieur de soi qu'on a peur de faire sortir. Cette haine-là, souvent, elle est confinée, elle est enfouie, et que ce mot rage, pour moi, il évoque le petit enfant qu'on n'a jamais écouté.
Merci. Vas-y, Tiffany, je te laisse la parole. Ne me tape pas.
Ça va être dur de rebondir là-dessus. Non, moi, du coup, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le film. Ça m'a parlé personnellement parce que j'essaie les thématiques de s'accepter soi, d'accepter des pathologies. Voilà, c'est des choses que moi, je vis aussi. Donc, c'est vrai que j'ai reçu un peu comme un message, ce film, un peu ce truc de se dire faut arriver à se regarder soi, ce dont vous parliez tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez à transmettre ou pas du tout? Ou est-ce que c'est... Vous n'avez pas voulu transmettre quelque chose? Je ne sais pas si c'est très clair, la façon dont je pose la question.
En fait, ta question, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai cherché à transmettre là-dedans.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez cherché à transmettre?
Moi, je pense que le seul message que j'ai envie de partager, avec toute l'humilité, tu vois, toute la... Parce que c'est très compliqué, en fait. Moi, je ne me positionne pas du tout comme une personne qui a un message pour qui que ce soit ou qui doit dire à quiconque de comment il doit être, tu vois. J'aurais jamais la prétention de dire et puis je suis rien et puis je continue d'apprendre de tous les gens que je rencontre au quotidien, tu vois. Déjà, je pense que le premier des messages, c'est que ce n'est pas un message de guérison, c'est un message de cohabitation.
Bien sûr.
Donc c'est très très différent. Le deuxième message, c'est que je pense que personne n'a la solution à part toi. Et que les gens pourront t'accompagner, t'aider, t'épauler, tu pourras t'appuyer sur eux. Mais personne ne pourra te dire par où aller et par où commencer. Et qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on place toujours le rationnel en première ligne, avant d'écouter l'irrationnel qui est de l'ordre de l'intuition, qui est de l'ordre de l'émotion, qui est de l'ordre des sensations, qui est de l'ordre de l'estime de soi. Ça ne veut pas dire que l'un va sans l'autre. Et mon message n'est pas du tout un message qui est en opposition avec la science, bien au contraire. C'est juste un message où tu repositionnes les choses. Tu remets en première ligne qui tu es, ce que tu aimes, ce qui t'anime, et l'estime que tu as de toi, pour après prendre le meilleur des traitements et le meilleur des accompagnements. Mais tu peux pas faire l'inverse. Et en fait, à partir du moment où toi, tu te mets en première ligne sur tes sensations, c'est la meilleure manière de te faire accompagner rationnellement, avec des traitements, avec un accompagnement scientifique et avec le bon traitement. Et en fait, aujourd'hui, on inverse complètement le processus. Et aujourd'hui, d'aimer son corps malgré son handicap, sa faille, ses rondeurs, sa laideur, c'est très facile pour moi de dire ça aujourd'hui sans être handicapé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très facile. Mais aujourd'hui, moi, le seul message que j'ai, c'est de préparer tout ça pour que si jamais ça arrive, je puisse être prête. Donc, je n'ai aucun message à dire à des gens qui vivent des handicaps physiques déjà bien présents, des handicaps corporels, sensitifs. C'est que moi, aujourd'hui, je sais que ma maladie, elle est active, elle est présente, elle peut se réveiller demain matin, que je n'ai pas un message de « je vais bien, regardez comment je vais bien et faites comme moi ». Pas du tout. J'ai juste un message de dire je pense que, quoi qu'il arrive, je mettrai des paillettes sur mon fauteuil roulant. Et du moins, au moment où ça arrivera, j'aurai peut-être pas la même énergie, je serai peut-être plus triste, j'aurai peut-être plus de failles, mais je sais que tout le chemin que j'essaye de parcourir à ma petite échelle, c'est d'avancer pas à pas et de planter des petites graines pour qu'au moment où ça arrive, je me dise pas, et merde. Tu vois ? Et donc, il n'y a pas de « il faut que » ou « le message, c'est ça vis-à-vis de mon corps vis-... ». Non, il y a plein de choses qui se passent avec ma rosie aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai une rosie. Toi, tu as peut-être une tulipe. Toi, tu as peut-être un... Toi, tu as peut-être un putain de cactus. Toi, tu as peut-être un... Mais tout le monde a quelque chose. Et moi, j'invite vraiment à rendre ce quelque chose singulier, à se l'approprier, à le rendre comme quelque chose d'extrêmement précieux.
Merci, merci Marine, merci Tiphaine. On peut dire, pour conclure, que vous avez réussi à faire cohabiter la laideur avec la beauté.
Je l'espère, et puis on verra ce que ça va donner.
Merci, mais longue vie à votre film.
Bah ouais, vous aussi les filles, merci. Longue vie à vous. On est à la bourre, on y va, on a trop papoté là. 18h23.
Irène Finkel, pour ma préférence, une erreur s'est glissée dans la rubrique cinéma. Le film Pingouin et Goéland n'est pas à voir au cinéma American Cosmo, mais à l'ABC.
C'était la rubrique cinéma. On passe maintenant à la rubrique littérature. Et je pense qu'on a Pascal Sabatier en duplex. Allô ?
Oui, je suis là.
Bonjour Pascal, ça va bien ?
Bonjour Irène, oui ça va, malgré le temps, on fait aller.
Oui, il fait froid, c'est vrai. Alors vous allez nous réchauffer en nous proposant de très bonnes lectures pour lire au coin de la cheminée.
Alors, la dernière fois, je vais commencer à vous parler du premier roman de Salomé Kinner, Grande Couronne. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur cette adolescente qui se prostituait.
Ah oui, tout à fait. Vous aviez commencé à le lire, mais pas terminé. Voilà. Je me souviens parfaitement.
J'avais commencé à le lire et j'ai terminé et j'ai bien fait. Parce que franchement, c'est un très bon livre. Alors, ça s'appelle Grande Couronne et c'était édité chez Christian Bourgeois. Mmh. Alors, je reprends un peu du début. Donc, la narratrice de cette histoire, c'est une adolescente de 14 ans. Ça se passe en 1999. Donc, elle est très bonne élève, mais elle est d'une famille un petit peu marginale, on va dire, des parents qui n'ont ni les moyens ni le désir d'acheter les marques en vogue à cette époque-là. C'était le début du grand consumérisme chez les jeunes. Et donc, elle avait commencé par monnayer les devoirs faits pour ses camarades. Et comme ça ne va pas lui suffire pour acheter ce dont elle a envie, elle va se prostituer.
Oui, elle aime les choses luxueuses, vous nous aviez dit.
Oui, enfin, luxueuses, oui, qui lui paraissent, elle, luxueuses. Mais bon, si on le remet à notre époque aujourd'hui,
d'accord.
C'est un peu léger. Ça va être une paire d'Adidas ou enfin,
oui, d'accord.
Des marques en vogue à cette époque-là. Bon, je reconnais que sans tenir à ce résumé, ça pourrait rebuter le lecteur. Mais alors, c'est sans compter, sans l'immense talent d'écriture de Salomé Kinner, parce que d'ailleurs, c'est son premier roman, c'est d'autant plus étonnant. Elle a une prose, mais tout à fait drôle, précise, un sens du détail presque chirurgical. Et elle nous embarque dans les tribulations de cette jeune héroïne, qui analyse ce qui lui arrive avec énormément de lucidité, alors de manière très crue, parfois, c'est vrai, mais en même temps, il y a toujours une distance et beaucoup d'autodérision. Et je vous assure qu'on arrive même à rire. Hein.
Mais l'auteur a quel âge ?
Elle est née en 86, je crois.
Oui, donc ça fait quoi, 35 ans, ça ?
Je pense qu'elle avait 14 ans à cette époque-là.
D'accord.
En gros. Hein. Et donc, c'est cet humour qui permet vraiment de faire passer des passages qui seraient un peu glauques du récit. Et puis surtout, enfin moi j'ai trouvé, c'est quand même une analyse sociologique assez pertinente, puisque ça se passe dans ces banlieues pavillonnaires de la Grande Couronne parisienne, où les jeunes s'ennuient, et puis ils ont l'attirance d'un Paris qui est souvent, Paris est la capitale, hein, qui est souvent fantasmé, et qui est à la fois proche, mais inaccessible pour les ados de cet âge-là.
Bien sûr.
Et puis c'est aussi une excellente analyse de l'emprise de la consommation chez les jeunes. Et je pense que c'est un phénomène qui est allé en grandissant jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est un joli roman d'apprentissage malgré tout. C'est très réussi et l'écriture est parfaite. Voilà, je vous le conseille, honnêtement.
Bon, c'est noté.
Et le deuxième livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de Claire Berest. Alors, Claire Berest, c'est la sœur d'Anne, elles écrivent toutes les deux. Elles sont les petites filles du peintre Francis Picabia. Et Claire avait déjà écrit Rien n'est noir sur Frida Kahlo. Et puis Gabrielle avec sa sœur qui racontait l'histoire de sa grand-mère et de Picabia, qui était quand même un personnage pas très intéressant. Là, elle nous revient avec un livre qui s'appelle Artifice. C'est l'histoire d'un... Il s'appelle un flic qui s'appelle Abel Bach. Et personne n'a réussi vraiment à le cerner. Il est assez mutique, très professionnel, extrêmement efficace. Mais là, tout d'un coup, il vient d'être suspendu de ses fonctions. Et au même moment, atterrit... Alors, on ne sait pas pourquoi, au début du roman. Au même moment, atterrit chez lui sa voisine du dessus, complètement ivre. Elle s'est trompée d'étage, soi-disant. Et la veille, on a trouvé un cheval blanc, un vrai cheval, hein, type Géricault, dans la bibliothèque de Beaubourg. Donc la photo est à la une du Parisien, le journal, et ce journal est sur le perron d'Abel, sauf qu'il n'a jamais été abonné au quotidien.
Donc, ça commence c'est assez loufoque.
Très bizarrement. Et donc Camille, qui est son binôme dans la police, cherche à comprendre pour quelle raison déjà il a été suspendu, pourquoi ne laisse-t-il personne entrer chez lui, et pourquoi la vue de ce cheval le perturbe à ce point. C'est un roman assez énigmatique, comme le résumé que je vous en ai fait, dans lequel il est question d'art contemporain, de traumatisme, de manipulation. On suit donc ces trois personnages, le flic, la collègue et cet artiste qui est mondialement connu sous un pseudonyme, elle s'appelle Mila, son nom d'artiste, et dont les installations défraient la chronique par leur audace et leur violence. Mais donc, au nom de l'art, est-ce qu'on peut tout se permettre? Ça, c'est une des questions que pose ce livre. Certaines œuvres sont-elles réellement sincères ou manipulatrices? Quel est le rôle de l'art? Et puis après, comment on se sort d'un traumatisme? Voilà, il pose pas mal de questions, il est très intéressant, et surtout, il se lit vraiment comme un polar. C'est un page-turner, c'est une histoire forte, tendue, alambiquée. Le dire.
Oui, mais à votre façon de l'expliquer, on entend que c'est alambiqué, effectivement.
Mais elle ne laisse personne indifférent parce qu'elle pose tout un tas de questions. Alors, c'est vrai qu'en étant petite fille de peintre connue, je pense que ses romans tournent toujours autour de l'art. L'art, c'est l'art contemporain. On a parlé beaucoup de cristaux ces derniers temps. On se pose souvent des questions par rapport à ce type d'art. Donc j'ai trouvé ce roman vraiment très très intéressant. Voilà, et c'est les deux romans que j'ai lus dernièrement et que j'ai beaucoup aimé. Alors celui-ci est édité chez Stock et il était sur la rentrée littéraire, donc il est très récent aussi. Voilà pour cette fois.
Merci Pascal. Alors je ne vous donne pas rendez-vous dans 15 jours comme habituellement pour ma préférence parce que je serai en vacances. Donc à noter que la prochaine de ma préférence sera le 1er décembre.
Eh bien, très bien. Donc, je vous parlerai de jolis cadeaux de Noël.
Eh bien, formidable. Tout à fait.
À l'espérant qu'il y aura du papier.
Ça sera le mois pour, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Pascal, pour votre intervention. À très vite.
Merci à vous de me donner toujours audience. C'est gentil.
Merci.
À bientôt.
Au revoir, Pascal.
Au mois prochain. Au revoir.
Au revoir. Alors, voilà, nous allons passer au choix musical de Jean-Luc. Alors, Jean-Luc, qu'est-ce que vous nous avez choisi pour ce deuxième pause musicale?
J'ai choisi une chanson de Morane qui m'a beaucoup ému et qui, me semble-t-il, va bien avec le temps que nous vivons aujourd'hui de ce mois de novembre. J'ai choisi le morceau sur un prélude de Bach. Pour moi, Morane avait une énergie, une mélancolie qui donnait le frisson, qui m'a donné le frisson. Notre chanteuse belge s'est éteinte à 57 ans, le 7 mai 2018 à Schaerbeek.
Bien trop tôt.
Officiellement d'une crise cardiaque. Et sur un prélude de Bach est une chanson qui restera gravée dans toutes les mémoires, je pense. La musique douce du prélude épouse parfaitement la voix de velours de Morane, qui en fait une interprétation mélodieuse et sensuelle. Cette chanson évoque, à mon sens, en tous les cas très certainement, des souvenirs nostalgiques d'une idylle perdue, mi-douce, mi-amère, qui s'est déroulée dans un cadre lourd et triste, et où la narratrice s'attache à convoquer cette relation complexe et ambivalente, on peut dire, où elle se reproche d'avoir été trop possessive avec son amant. J'ai donc choisi de vous faire écouter une version acoustique, unique, enregistrée en public en 2015, et qui pour moi est une des interprétations des plus émouvantes et originales.
Lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole vers le port du Havre et les baraques et les cargos lourds que l'on rafistole et les torchères, les grues patraques, les citernes de gasoil. Et toi qui courais dans les flaques et moi ma tête à claque, et moi qui te croyais ma chose, ma bestiole, et moi je n'étais qu'un pot de colle. Lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn, et toutes ces amours qui se détraquent, et les chagrins lourds, les bernes qu'on bricole, et toutes mes amours de zodiaque, mes erreurs de zodiaque, et mes sautes de boussole, et toi. Charge de rêve en Pâques, qu'on bazarde au prix du pétrole pour des cols blancs et des corbacs. Qui se foutent de Mozart.
Merci Jean-Luc pour ce choix, parce que ça fait du bien. Alors tout à l'heure, on était excités comme des puces avec le première pause musicale. Là, c'est vrai que ça nous a tous bien calmés et bien assis. Quelle voix, quelle sensibilité, c'est extraordinaire.
C'est ça la vie.
C'est ça la vie, exactement. Alors on va passer à la rubrique restaurant. Comme vous le savez, je vous fais part de mes choix. J'aime vous parler des restaurants toulousains. Et là, je souhaitais vous parler du restaurant Les Crulotés, qui se trouve 13 Place du Puy. Alors, c'est vraiment un restaurant coup de cœur. Depuis que je l'ai découvert, j'y vais régulièrement parce que c'est un restaurant où on mange bien, où on mange frais, où on mange cru, certes. Alors pour ceux qui n'aiment pas le cru, sachez quand même qu'il y a des plats végétariens. C'est un restaurant où vous avez un très bon accueil. Tout le monde est charmant dans ce restaurant. L'ambiance est chouette. Enfin, moi, je valide à 100%. Ça s'appelle Le Cruloté, le meilleur plan cru de Toulouse. C'est 13 Place du Puy et je vous laisse écouter la patronne du restaurant que j'ai été interviewée pour cette émission.
Irène Finkel pour Ma Préférence, je suis au 13 Place du Puy dans le restaurant Les Crulotés en présence de Marine Juché. Bonjour Marine.
Bonjour Irène.
Alors, votre restaurant Les Crulotés, qu'est-ce qu'on peut en dire, les crulotés? Pourquoi déjà ce mot, les crulotés?
Alors, les crulotés, pourquoi? Parce que donc, c'est un restaurant avec un concept un petit peu particulier, puisqu'on n'y mange que des mets crus. Voilà, c'est une carte 100% crue que l'on propose. Et l'achat de ce fonds de commerce est arrivé donc, durant le Covid. Et donc, je trouvais ça un petit peu culotté d'acheter un restaurant pendant cette période un petit peu compliqué. Je voulais que le nom de cru apparaisse sur l'enseigne. Et donc, naturellement, voilà, j'ai associé culotté et cru, et c'est devenu crulotté.
Et c'est également, on peut lire en dessous les crulottés, parce que ça me plaît beaucoup. Alors, je souhaite le dire quand même, c'est le meilleur plan cru de Toulouse.
Exactement.
Qui dit restaurant de cru ? Dit produit extrêmement frais, j'imagine.
Ah oui, là, tout à fait. On ne triche pas avec le cru.
Alors, est-ce qu'on peut parler des produits? Comment vous les choisissez? Où est-ce que vous fournissez? Est-ce que ce sont des produits locaux? Racontez-moi un petit peu.
Alors, du coup, on a sélectionné avec mon chef de cuisine des fournisseurs donc majoritairement locaux. Voilà, qui effectivement ont une tendance à travailler le produit, à respecter le produit et à le travailler le plus naturellement possible. Voilà, on ne se prétend pas 100% local puisqu'on utilise aussi évidemment d'autres produits pour agrémenter nos recettes. Mais voilà, on essaye de sélectionner que ce soit la viande, le poisson, les légumes, Les fleurs comestibles, les micro-pousses, voilà, avec des gens qui aiment leur travail et qui sont dans la région.
Pour qu'on puisse en parler, donnez-nous un exemple de repas du midi.
Alors, le midi, donc, on propose deux types de formules. Donc, entrée plat, plat dessert ou entrée plat dessert avec deux choix d'entrée, deux choix de plat, deux choix de dessert. Toujours dans un principe de sélection courte, puisqu'on travaille avec des produits frais. On essaye d'avoir à chaque fois une option végétarienne. Et effectivement, tout tourne autour, que ce soit du coup le midi ou le soir, tout tourne autour de ceviche, carpaccio, tartare, pour rester effectivement dans notre concept à 100%.
Donc, le fait qu'il y ait végétarien, ça veut dire que quelqu'un qui n'aime pas spécialement le cru, trouvera quand même de quoi manger chez vous.
Tout à fait. Que ce soit le midi ou le soir, on met un point d'honneur, même si ça reste une entrée ou un plat, à sélectionner quand même une option végétarienne pour satisfaire les gens qui ne mangent ni viande ni poisson.
Vous avez dit que le restaurant est récent, puisque vous avez parlé du confinement. Comment décrire l'ambiance du restaurant ?
Alors nous, voilà, moi j'ai cherché effectivement, quand j'ai eu idée de créer ce concept, je l'imaginais vraiment dans un endroit très cosy, à taille humaine, où effectivement les gens peuvent partager un bon repas, goûter des bons vins, et celui aujourd'hui, ça, c'est vraiment 100% ce que je recherchais. Ça met aussi en lumière notre belle ville de Toulouse, puisqu'il y a un mur de briques là qui amène cette chaleur à l'endroit qui, effectivement, m'a beaucoup plu. Voilà, c'est un lieu où on s'y sent bien, en tout cas j'espère, et où on crée du plaisir autant dans l'assiette que autour d'un bon verre de vin avec des amis, en couple. Voilà.
Combien de places assises ?
Alors aujourd'hui, on a entre 35 et 39 places assises.
Il faut réserver.
C'est mieux.
Un téléphone pour réserver?
Oui, bien sûr. Vous pouvez réserver donc au 05 31 48 69 91 ou par Internet, puisque on est réservable sur Google, sur Facebook, sur Instagram.
Donc les crulotés. Vous êtes ouvert tous les jours de la semaine?
Alors non. On est ouvert du mardi au vendredi, midi et soir, et le samedi soir.
Un groupe peut venir?
Bien sûr. Oui, après, évidemment, nous, on met un point d'honneur à discuter avec le groupe pour savoir voilà, s'il y a des préférences, des spécificités, puisqu'effectivement, nous, nos tartares, enfin, tous nos plats sont préparés à la minute. Donc, effectivement, sur un groupe d'une dizaine ou d'une quinzaine de personnes, cela peut prendre plus de temps. Donc, on aime échanger avec les gens avant, effectivement, que le groupe puisse être confirmé. Mais oui, bien sûr, on a déjà accueilli, là, le maximum qu'on ait fait, un petit groupe de 13 personnes.
Vous êtes place du Puy, donc juste à la sortie de la Lograin. On peut venir manger après un spectacle à la Lograin?
Bien
vous
sûr.
Servez jusqu'à quelle heure le soir?
Oui, les soirs de spectacle, donc on sert jusqu'à 22h30.
D'accord, donc ça laisse le temps de sortir et de venir sans avoir réservé spécialement. On peut toujours essayer de toute façon.
Tout à fait, oui, par téléphone, après nous dire que voilà, vous venez après le concert et avec grand plaisir, on note la réservation. Et c'est aussi possible sans réservation.
Parce qu'on me le demande à chaque fois, quand on est placé 13 places du Puy, on a les parkings, on a les transports en commun très facilement pour venir.
Bien sûr, parking donc Carnot, le métro François Verdier, il y a des lignes de bus, c'est très très bien desservi en termes de transport en commun.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Le meilleur.
Et ben, c'est
de continuer à faire ce qu'on aime en tout cas.
Merci, merci beaucoup Marine.
Merci Irène.
Au revoir.
Et voilà, Tiffaine, c'est à toi de nous faire part de ton choix musical. Alors, qu'est-ce que tu as prévu de nous faire écouter?
Alors, moi, j'ai choisi du coup les Frangines. C'est un duo français de chanteuses.
Ça fait réagir Chloé.
Que,
hein,
oui,
ça fait réagir
Chloé. Connaît.
Voyons laquelle tu as choisi.
Ah, devine. Non, c'est du coup, voilà, qui sont composés des chanteuses et guitaristes Anne Coste et Jacinthe Matelin. Et le morceau que j'ai choisi, c'est Donnez-moi, parce qu'il parle de l'importance de l'amour. Et que l'amour, c'est une des valeurs que je prône. Et là-dedans, j'inclus la tolérance et la bienveillance.
Et tu as bien raison.
Elles ont fait aussi une reprise de Demain dès l'aube, tu l'as entendu?
Ah non, je ne l'ai pas entendu celle-là.
Le poème de Victor Hugo.
Ah, ça, il va falloir que j'aille l'écouter.
J'aimerais vraiment l'écouter parce que c'est tellement...
Ouais, bah avec leurs deux voix, mais elle est là, c'est super.
M'étonne.
Ah ça, je me le
bon,
note.
Bon, bah, la prochaine fois, Chloé, tu viens avec...
Avec cette fois musicale.
Ah, avec Chloé, là, c'est important parce que quand on connaît le poème et puis surtout pourquoi et comment il l'a écrit, bien sûr, ça donne envie...
Très touchante, ouais.
Bien sûr, ça donne envie d'écouter la chanson.
Donnez-moi, j'adore.
Allez, c'est parti.
J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, hey. Si je m'aime pas, si je t'aime pas. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, oh, eh, eh. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? Sans amour, nos vies sont...
Voilà, l'heure est déjà venue de nous quitter, mais avant, je voulais vous rappeler les dates du Festival du film de Muret, qui c'est actuellement, puisque c'était du 7 au 14 novembre, donc il vous reste encore 4 jours, en sachant qu'il y avait une très très belle programmation pour ceux qui ont écouté mon émission « Ainsi va la vie » de la semaine dernière, qui était entièrement consacrée au Festival de Muret. Et pour ceux qui ne l'ont pas écouté, vous pouvez toujours aller chercher le podcast sur le site de la radio. Mais encore une fois, vous pouvez également aller sur le site du Festival de Muret pour voir la programmation, parce qu'il vous reste 4 jours. Et vraiment, ça vaut la peine, parce qu'il y avait une très, très, très jolie programmation. Voilà, alors je voulais vous remercier, que ce soit Chloé, bien sûr, Pascal, Tiphaine et bien sûr Jean-Luc.
C'était merci Irène, on te remercie aussi.
C'était donc Ma préférence, une émission d'Irène Finkel et de Jean-Luc Palévaudy, avec à la réalisation Tiphaine. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie, www.espritoccitanie.fr. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ah, Pascal, pas d'émission, ma préférence, dans 15 jours pour cause de vacances. Merci de votre compréhension. Et on se retrouve alors pour la prochaine de ma préférence, tous ensemble, avec grand plaisir, le 1er décembre pour l'enregistrement. Donc, ça sera diffusé le samedi qui suit le 1er décembre. Ça sera le 3, je crois, ou le 4. Voilà. Merci à tous. On aura l'occasion de vous le redire sur les réseaux sociaux de toute façon. À très vite. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.